France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans À la régulière, l'émission de toutes les cultures. 2025, c'est peut-être l'année où YouTube et Twitch ont définitivement changé de visage, pas dans le spectaculaire, mais dans le structurel. Une année où les créateurs n'ont peut-être jamais autant travaillé, où les plateformes n'ont jamais autant repris la main. Algorithmes mouvants, formats qui se raccourcissent ou qui s'allongent, lives qui deviennent des rendez-vous quasi télévisuels, vidéos pensées comme des marques, chaînes conçues comme des entreprises. En 2025, créer sur Internet, ce n'est plus seulement poster, c'est produire, programmer, optimiser, négocier. Sur YouTube, on a vu ça. C'est une nouvelle norme, des contenus plus rares, plus chers, plus événementiels. Sur Twitch, le live s'est professionnalisé à l'extrême entre show, communauté fidélisée et peut-être aussi une fatigue créative. Et au milieu de tout ça, une question centrale, qu'est-ce que ça veut encore dire être créateur en 2025? Est-ce qu'on assiste à une concentration du succès autour de quelques grosses machines? Est-ce que les plateformes favorisent encore l'émergence ou plutôt la rentabilité? Est-ce que le public suit par passion ou par habitude? Pour en discuter, trois regards complémentaires et bien plus pertinents que moi sur ces mutations, Nawel Stouli, fondatrice de l'agence Loopin. Bienvenue.
Bonjour.
Ça va?
Très bien.
Je suis très heureux que tu sois là.
Merci.
Arthur Perticoz, board member de la Carmine, entre autres, notamment qu'on retrouve dans les podcasts Stonks et Loopin. Comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Très heureux de t'avoir. Et un ami?
Oui.
Guiran Fall, auteur, créateur de contenu, qui co-anime le Mosscast et qui anime aussi le podcast Le Début de la Fin.
Absolument. Merci beaucoup de le citer. Bonjour, bonsoir à tous. Comment ça va, Midi?
Ça va très bien. J'ai envie de dire bonsoir Internet.
Bonsoir Internet.
On part de l'année 2025 d'Internet tout de suite dans la régulière.
France Inter. À la régulière. Midi Maizy.
Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes.
Moi j'avais envie de commencer avec cette... Vous avez la ref? Vous savez c'est quelle série? X-Files, c'est X-Files, voilà, non, c'est Gillian Anderson qui sape et c'est dans la VF, voilà. Qui elle appelait Internet pour qu'il lui envoie un fax, c'est complètement fou. C'est les années 90. On est en 2025. Il s'est passé beaucoup de choses cette année et évidemment on va essayer de retracer, ça va être dur d'être exhaustif, mais en tout cas quelques événements marquants et je pense notamment à... On peut peut-être commencer par ça, là. C'est un moment aussi où les créateurs aujourd'hui ne sont plus uniquement des créateurs, sont des producteurs et même des diffuseurs. Je pense notamment à Zach Nani qui est un créateur de contenu, streamer à la base si je ne dis pas de bêtises, et qui aujourd'hui possède les droits de la Ligue de football saoudienne, qui va aussi diffuser les matchs de l'équipe de France Espoir. On peut évidemment, c'est différent, mais parler du GP Explorer, bien sûr, on va en parler, qui est un énorme événement, c'est presque la télévision sur Twitch. Comment vous avez un peu observé ce changement-là? Je pense notamment à Zach Nani, qui évidemment passe d'un pur streamer à aujourd'hui quelqu'un qui possède des droits télé. Arthur, qu'est-ce que ça t'inspire?
Alors, je suis obligé d'être transparent avec vous.
Oui.
J'ai aidé Zach à faire l'acquisition. Donc, je peux vous parler un peu du cheminement.
Parle-nous d'argent, voilà.
Je ne pourrais pas dire à sa place, mais en tout cas, on parle quand même de somme à 6 chiffres pour l'acquisition totale de ses droits. Donc, il a acquis les droits de la Saudi Pro League, donc la division 1 de football d'Arabie Saoudite, mais aussi de l'équipe de France Espoir.
On retrouve notamment cette ligue Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, c'est une ligue qui est prestigieuse.
C'est une ligue prestigieuse, et l'équipe de France Espoir, où là, il y a quand même un côté très institutionnalisé, qui est assez dingue. C'est une première en Europe, c'est quasiment une première dans le monde, et ça l'a tout de suite positionné comme un acteur du football français, avec les hauts et les bas de ce que ça représente. Et je crois que c'est presque ça ce qui m'intéresse et va rester de cet achat, c'est le fait qu'à partir de maintenant, peu importe d'où tu viens, qui tu es, si tu fais un mouvement d'investissement dans le football et tu fais l'acquisition de droits, bah ça y est, tu es un diffuseur comme une chaîne traditionnelle. C'est sur Twitch, c'est sur YouTube, à la rigueur, peu importe. Et ce peu importe, je trouve qu'il est particulièrement intéressant parce qu'en fait, c'est presque ce qui va résumer pour moi quasiment toute l'année. C'est en fait le GP Explorer, peu importe, c'est à la fois sur Internet, ouais, et à la télévision. Et le football, c'est un peu pareil. Et c'est ça que je trouve fabuleux dans cette acquisition de droits.
Ou Guiran, qu'est-ce que ça t'inspire, toi?
Moi, je pense que, de toute façon, là, 2025, ça a entériné le fait qu'on avait, d'une certaine manière, changé de paradigme. C'est-à-dire que tout est de la télé.
On leur employait assez tôt le mot paradigme, je suis content que ça vienne de toi.
Moi, je me disais qu'il fallait ouvrir avec le paradigme. Moi, j'aime paradigmer assez tôt.
Ouais, bien sûr.
Et... Parce qu'on paradigme tard, et là, les gens sont déçus.
C'est vrai que tu paradigmes tôt, toi, ça j'ai remarqué. Ça.
toujours. Et donc, je pense qu'on a changé de paradigme, c'est que tout est devenu de la télé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit dans l'introduction, c'est-à-dire que je pense que le terme d'ailleurs de créateur n'est plus forcément adapté à un certain nombre d'acteurs de l'Internet français. Aujourd'hui, on a des producteurs de contenu qui sont d'ailleurs plus seulement producteurs, qui sont à la tête d'entreprises avec plusieurs activités. On prenait l'exemple de Zach Nani qui est diffuseur, donc aujourd'hui d'événements sportifs, notamment de foot. Il est aussi restaurateur, propriétaire de franchisés, de sandwicheries franchisées, qui lui permettent aussi de faire du contenu sur YouTube. Et donc aujourd'hui, on a vraiment ça, l'aspect création artistique qui était vraiment au départ aussi un des... qui avait attiré un certain nombre de gens sur les plateformes parce que personne ne savait ce que ça pouvait donner. Aujourd'hui, est quasiment complètement balayé. En tout cas, il y a très très peu de gens qui ont encore cette démarche purement artistique. On a des entrepreneurs qui font des choses et qui utilisent les plateformes pour diffuser et promouvoir leurs aventures entrepreneuriales aussi beaucoup.
Nawel, est-ce que tu vois aussi des choses comme ça?
Alors moi déjà je me suis dit c'est un coup de génie, donc bravo Arthur si tu l'as aidé sur ça. Je pense que ça va ouvrir les portes à plein de choses, ça va je pense ouvrir les chakras de plein d'autres créateurs, et il va y avoir deux choses, c'est à la fois les créateurs vont pouvoir vendre aussi leur propre format avec Banijé maintenant qui propose de les distribuer en tant que format, donc enfin on considère la création sur internet ayant
Banijé
une valeur sur le marché.
Banijé qui est une grosse boîte de production.
Je pense numéro
une des plus grosses.
Numéro 1, je crois qu'on peut peut-être un peu savoir. En tout cas, sur la prod télé, je pense qu'ils sont numéro 1. Et donc, ils proposent de commercialiser les formats des créateurs et des créatrices. Et ils ont aussi lancé un Creator Lab où ils ont proposé à des créateurs et des créatrices d'adapter des formats qu'ils ont déjà en catalogue et qui dormaient un peu sur les étagères et qui vont sortir en 2026. Donc, il y a une synergie, une rencontre des deux, là où on a beaucoup opposé les mondes. Et en fait, les deux mondes vont se nourrir et s'alimentent, ce que je prône depuis longtemps.
C'est une espèce de fusion des écrans, en fait. Ouais. Peu importe l'écran.
C'est le peu importe de Arthur finalement, et on voit aussi des gens.
Et YouTube est le premier écran sur YouTube aux États-Unis, c'est la télévision aujourd'hui, et c'est en train d'arriver en France. Les gens regardent énormément YouTube
sur la télévision, exactement. Et puis on voit aussi des personnes qui sont historiquement plutôt de la télévision qui viennent sur YouTube. Stéphane Bern est arrivé
Claire Chazal,
Élise Lucet, Éric Ramsey, qui sont pas des gens de la télé, mais qu'on a beaucoup vu à la télévision.
Ils ont cassé le game en une vidéo,
c'est vrai.
Qu'on fait une irruption, une irruption.
Ils ont passé une tête. Ils sont repartis.
C'est vrai, tout à fait. Tu voulais parler de Stéphane Bern, toi, je crois, Guiran.
Dès que je peux, je dis le mot paradigme et ensuite j'enchaîne avec 10 minutes sur Stéphane Bern.
Alors, préparez-vous. Il y a un peu moins de 10 minutes.
Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Stéphane Bern a aussi un petit peu validé la manière dont les gens de télé arrivent sur YouTube. C'est-à-dire qu'ils arrivent à peu près tous de la même manière. Élise Lucet l'a fait en ayant Squeezie. Il faut les gens de télé arrivent et ils se font adouber par.
Éric Ramsey, il y a Michou dans leurs vidéos.
Qu'en fait c'était presque vu qu'ils reprennent le format de Squeezie.
Oui.
C'est un truc de billard à 5 bandes où en fait ils reprennent les rêves de tout le monde.
Ouais, Squeezie n'était pas dispo. Voilà.
Squeezie n'avait pas envie de faire ça.
Michou, il dit j'étais votre dernier choix.
Oui. Bon, c'est possible. Oui, il y a eu des désistements potentiellement. Stéphane Bern arrive avec Cyprien et globalement ils font à peu près tous la même chose, c'est-à-dire des formats de longues interviews avec des gens, et parce que c'est aussi l'année où de toute façon là le format podcast est en train de s'imposer comme une des bases, c'est-à-dire on fait quelque chose, on a un podcast.
Absolument.
Si je peux me permettre, celui qui a été un peu l'étalon mesure, le premier sur comment on arrive sur les plateformes, je trouve que c'est Samuel Etienne.
Bien sûr.
Ouais.
Qui a vraiment, je crois, transformé la perception que les stars, je me permets d'utiliser ce mot, mais des médias
les
traditionnels,
vedettes.
Les vedettes avaient des plateformes en disant en fait, c'est pas mal. Et ça a l'air de bien marcher. Par ailleurs, c'est un très bon business pour Samuel Etienne, je pense. Et donc, lui, il est rentré sur Twitch, plateforme de diffusion live concurrente de YouTube, avec Étoile, qui est un streamer connu pour faire de la culture générale, de manière générale, j'allais dire. Et il a vraiment validé ce modèle de « Ok, en fait, quand on est adoubé par une star d'Internet, bah, ça rend plus évident moins bizarre l'entrée en matière pour le public, et donc on rentre un peu par cette porte-là.
Après lui, ça semblait un petit peu, vu que c'était le premier, de toute façon c'était un petit peu plus organique, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé directement chez Zerator en disant, voilà, il a commencé à prendre goût, c'était presque un défi, ouais. Parce que Étoile est fan de Questions pour un champion, tout il est fait. Venu le voir sur son... Et ensuite, lui, Samuel Etienne s'est mis à faire, a pris goût à ça, s'est mis à faire tout un...
Bah, il fait ses matinales.
Ses revues de presse qu'il arrête maintenant en plein milieu en disant, oula, il reste 45 minutes, il me reste, c'est pile le temps pour faire une game de Valo, et il joue à Valorant. C'est-à-dire qu'il est il a complètement brassé les codes, contrairement à Stéphane Bern qui arrive, lui, en grande pompe, avec une équipe de
calculé,
télé.
C'est plus calculé, c'est plus produit, c'est moins naturel qu'un Samuel Etienne, bon, je trouve.
Je propose qu'on continue d'en parler juste après un morceau, parce que, vous savez, en 2025, c'est aussi été l'année où Théodora a définitivement dirigé ce pays.
Oui,
donc, on va écouter un morceau sur lequel Théodora apparaît exactement. C'est le morceau de DC's, évidemment, Mélodrama, en featuring avec Théodora, extrait de son dernier album, à DC's, pas à Théodora.
Blessé, baisé. Dans le TGV, dégoûté, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Encore, toujours pareil. Il pleut de l'eau de Javel, ça fait de l'aquarelle. Sur les couleurs de la vie sans elle, tout coule sur moi. Sur la douleur de la vie sans toi, tout roule pour toi. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condense mêlé mélodrame. Ça fait si mal, oh, que ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condense mêlé mélodrame. C'est donc la dernière fois qu'on se raccompagne.
Oh, j'pleure surtout sous les yeux.
Pour l'amour, pas pour le tribunal. Je plaide coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un coup dans ce mélodrame. Ça fait si mal, donc ça fait pas longtemps. Son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'ai jamais vraiment été ta Valentine.
Mélodrama, Théodora me fait dire des bêtises. Mélodrama, donc, dernier morceau donc, de DC's et Théodora. Extrait de l'avenue DC's, on s'en rappellera pas.
France Inter. Mehdi Maizi. Régulière.
2025, ça a aussi été l'année où on a vu des nouveaux créateurs, nouvelles créatrices de contenu exposées, et je pense que c'est un peu obligatoire de mentionner un nom, celui de Anime, qui a une année assez incroyable, et qui est aussi un exemple réussi, je pense, d'un quelqu'un qui buzz sur TikTok, et qui fait un passage sur Twitch extrêmement réussi, pour le coup, et maintenant qui est juste devenu une figure de l'internet français. Enfin, on peut parler de Twitch, mais on le voit aussi sur YouTube, invité, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui est devenu extrêmement important dans le paysage internet français. Comment tu as un peu observé son émergence? Ah
ouais. Moi, j'ai pris un énorme coup de vieux. C'est rare, mais là, je me suis dit, ok, il a une fraîcheur, un dynamisme qui me dépasse dans le sens positif du terme. Moi, je l'ai après aussi appréhendé à travers les situations et ses vlogs de doute où je l'ai un peu plus rencontré. Okay. Et puis sur le GP aussi, où je pense qu'il est sorti de son univers pur Twitch. Voilà.
Ouais, ouais. Guérin, tu veux...
Ouais, en fait, moi, je trouve que c'est hyper intéressant à plein d'égards. C'est-à-dire que je me rappelle que je travaillais chez Radio France, j'avais une émission sur Internet... Qui s'appelait Réseau, absolument. Et au moment où il a été remarqué sur TikTok avec sa reprise musicale. Je me rappelle qu'on nous avait proposé de le recevoir, et pour moi, c'était juste un épiphénomène. Complètement eu tort. Et
c'est pas ouais, généralement, t'as du flair, toi.
Ouais, bien sûr, absolument. Bah, par exemple, Théodora, j'avais dit ça marchera jamais. Voilà. Et j'avais tout. Moi, j'avais mis les actions Eurotunnel en 92. Mais ce que je veux dire, c'est que à bien des égards, donc c'est pas un épiphénomène. Ensuite, il allait sur Twitch. Tu dis ça a explosé. Il était sur TikTok depuis déjà 2 ans. Il y a un truc qui a explosé. Il est ensuite allé sur Twitch. Il a fait pendant un peu moins d'un an des streams. Plutôt bien, plutôt bon pour quelqu'un qui démarre, c'est-à-dire qu'il était entre 300, 600 spectateurs, et ça explose au mois de mai, et il y a vraiment un truc, c'est que ça explose vraiment, c'est la saveur de l'année, c'est-à-dire qu'il y a ce truc-là, saveur de l'année, absolument, tout le monde le veut en feat, il explose. Comme tu le dis, Nawal, il va au GP Explorer juste derrière. Et
Aujourd'hui, il fait des pics à plus de 100 000 personnes par live. Il a fait des pics
à 150.
C'est du jamais vu.
Il était premier au monde. Kai Cenat, iShowSpeed, qui sont les plus gros streamers américains du moment, faisaient 3 fois moins que Anime. Anime était leader au monde. Et surtout avec quelque chose, c'est qu'il était un anti-influenceur. C'était un anti-créateur. C'est un type qui venait, qui faisait des blagues limites, qui disait à peu près tout ce qui lui passait par la tête, qui disait que les marques c'était de la merde.
Il dit qu'il porte du faux. C'est quand même assez choquant, en fait, pour un influenceur.
Justement. C'était l'exact contraire de... Justement, il avait... c'était l'exact contraire du modèle qu'on a d'habitude. Et surtout, je pense qu'il y a une appétence aujourd'hui. Parce qu'on a dit, tous les écrans sont les mêmes. Tout est devenu de la télé, donc il y a de plus en plus de pubs, et je pense que dans le public, nous, on en a parfois un peu marre de voir des discours sponsorisés. On a l'impression que tout est dit parce que ça doit être dit et parce qu'il y a une relation transactionnelle et tout. Et lui, il arrive, on ne sait pas qui est cette personne. C'est un sosie de Central C qui est dans sa chambre.
C'est un rappeur anglais.
Qui est un rappeur britannique qui fait des entrées en stream avec un casque à fil qui se débranche, et c'est n'importe... En soi, c'est n'importe quoi, c'est tout ce qu'il faut pas faire, et justement, il le fait, et ça marche. Et là, après, à un moment donné, ça se retourne un peu contre lui, parce qu'à un moment donné...
Il est partout aussi, donc...
Il est partout, puis surtout, ça va trop vite et à un moment donné, on a toujours le truc, c'est comme sur YouTube, quand tu commences à voir des commentaires négatifs, t'as le truc de dire, mais qu'est-ce qui se passe, est-ce que je rate? Tu fais, non. Tu commences à avoir beaucoup de gens qui te regardent.
Arthur. Ouais, en fait, ce que je trouve génial avec lui, c'est deux éléments qui complètent ce que vous dites, en tout cas qui va dans la suite logique de ce que vous dites. Le premier, c'est que c'est quelqu'un qui est un talent à l'américaine. Il peut danser, il peut chanter, il peut écrire des sons, les produire littéralement. Il va produire des sons, il prend le logiciel et il fait un son. Et c'est un bon son qui pète sur Spotify.
Alors, pardon, juste avant que je te coupe, parce que écoutons un extrait d'un tube d'anime cette année, Shambhala. Voilà, un court extrait. On a aussi un morceau sur la compilation The Last Race, qui est la compilation du GP Explorer. Un morceau qui marche aussi, qui est un des plus gros morceaux de la compil. Donc ça complète ce que tu viens de dire.
Et il est drôle, il sait animer un show. Parce qu'il faut rappeler, être sur Twitch et on appuie sur un bouton, on est seul face à un mur, il y a une caméra. Et là, on parle à 100 000 personnes. Il faut savoir faire ça.
Alors, tout le monde ne part pas à 100 000 personnes.
Alors, lui,
j'ai fait un stream il y a 2 semaines, il y avait un peu moins. Non, je dis. J'avais un mur aussi.
Il y avait 98 000 personnes, mais c'est un succès quand même, malgré tout. Et en fait, savoir faire ça, c'est dingue. Et ça me fait penser un peu aux mecs qui ont des late shows aux US, qui savent tout faire. Et en fait, c'est
pas. Tu penses qu'il y a un côté américain, finalement, dans le profil de.
Si j'étais son producteur, je le mets dans un late show. et je regarde la bête faire tout ce qu'il sait faire. Et je pense que il a en lui ce truc de talent américain qu'on peut mettre et présenter des Oscars, et tu sais qu'il va faire de la danse, du chant, de la trompette, du saxophone, des,
du jonglage. Quelqu'un comme Ivic dans un registre différent d'une autre génération pouvait aussi avoir, c'est-à-dire le côté vraiment, d'ailleurs ses références étaient très américaines, oui. Le côté un
exactement.
Peu mec qui peut tout faire.
Mais il a la deuxième couche qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il a compris comment fonctionne techniquement le buzz. Il a compris que si tu veux percer sur Twitch, il faut percer sur TikTok. Aujourd'hui, il est impossible d'être découvert sur Twitch parce que c'est pas une plateforme algorithmique. Tu vas voir quelque chose.
Ouais.
Tu découvres pas par hasard, ça arrive, mais pas par hasard. C'est un peu comme du son, quoi. Soit quelqu'un te dit écoute ça, c'est pas mal, soit sinon c'est difficile de tomber par hasard dessus. Et en fait, il a compris ce qu'on appelle un peu, on va dire le clip farming, c'est-à-dire faire des choses en live qui vont être condensées dans des petits clips de 30 secondes et qui vont être balancées sur TikTok. Et là, il y a un effet qui se prend. Et quand on lit le fait d'être multi-domaine en termes de talent, d'être multi-talent et de comprendre la technicité un peu de ce qui marche, et en fait, il s'est mis à faire des choses que les talents historiques de Twitch ne faisaient pas. Il changeait de jeu, par exemple, toutes les 15 minutes. Normalement, tu joues 3 heures.
Oui,
lui, toutes les 15 minutes, bam, 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 bam. Il commençait ses lives très fort. Les 10 premières minutes de ses lives, c'est lui qui arrive avec une chanson, il fait un truc, un spectacle, il y a un côté un peu stand-up.
Ouais.
Normalement, les 15 premières minutes, tu fais rien. Parce que t'attends que les gens arrivent.
C'est vrai.
Et donc, il a complètement inversé la mécanique et ça en fait un talent exceptionnel.
Bon, continue.
Peut-être modérer un poil. C'est-à-dire que je pense qu'il est. Mais justement, sa force, c'est qu'il fait ça tout seul. Et c'est que pour l'instant, moi, je sais pas encore s'il peut le faire avec d'autres gens. C'est ça qu'il va falloir voir.
On va venir nous dire. On continue en tout cas à parler tout de suite d'Internet dans la régulière. Alors, en parlant d'anime, on parlait du GP, et ça a aussi été une année ponctuée de gros événements collectifs, et aussi des événements caritatifs. Je pense au Stream for Humanity, par exemple, au The Event, Téléthon Gaming. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'a pas été créé en 2025, mais en tout cas, on voit l'ampleur que prennent ces événements-là, qui sont vraiment, qui soulèvent des fonds, enfin énormément d'argent, et qui mobilisent énormément de personnes. On peut parler, par exemple, de la marche de Nico et Bailen, qui était un des gages, je crois, en tout cas, enfin
une des
récompenses, merci, du Z-Event, et qui a été un des événements d'Internet, enfin de l'année aussi, qui a été créé quelque part par le Z-Event. Ça aussi, ce sont des événements qui sont complètement fous, qui mobilisent énormément de gens. Est-ce que c'est aussi ça, devenu une des composantes presque obligatoires des créateurs de contenu aujourd'hui, c'est mobiliser comme ça autant de personnes?
Je pense que c'est important pour les créateurs aussi de sentir à un moment donné le côté physique réel de la passion qu'ils arrivent à susciter autour d'eux. C'est quelque chose qui est très français, en fait. C'est assez étonnant, parce qu'on pourrait se dire, ça marche partout. Les États-Unis, il y a très peu d'événements physiques avec du public. Ça arrive très, 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 très rarement. C'est un truc très français. Et il y a cette ferveur qui est créée, il y a cette envie de se retrouver. Donc, il va y avoir des matchs de foot avec Amine, il va y avoir de la Formule 4 avec Squeezie, il va y avoir de l'e-sport avec, par exemple, la Carmine ou Vitality. Et en fait, ça, c'est quelque chose de très français qui, je trouve, en dit long sur la puissance des créateurs de contenu en France, parce que c'est déjà très difficile, mais c'est beau d'être regardé, d'être écouté, d'être suivi. Mais de réunir physiquement, c'est quand même assez impressionnant, je trouve. Et ça en dit long sur la passion qui connecte les communautés avec les créateurs.
Je pense aussi que c'est une question de santé mentale. Je pense qu'il y a un moment, on a un besoin de revenir dans le réel, parce qu'être seul tout le temps, c'est fatigant et usant. C'est une question d'enjeux économiques aussi, de diversification des revenus, de ne pas être dans une dépendance permanente sur Internet. Et après, je pense aussi qu'il y a un enjeu de masculin dans tout ça, et je crois que c'est Léna qui l'avait souligné en disant, est-ce que c'est pas aussi une grosse bataille de qui a la plus grosse et qui va faire le plus gros événement et mon petit copain à côté.
Ouais.
Je pense qu'il y a un peu de ça aussi, de cette éducation de toujours plus gros, plus grand, plus que l'autre. Là où Léna, elle est restée sur ses vlogs d'août, chaque année, ce qu'elle fait, c'est incroyable, et elle le fait en grande partie seule, c'était un peu moins le cas cette année, mais en tout cas, c'est pas des super productions. Je pense que c'est un ensemble, il n'y a pas une seule bonne raison, mais c'est plusieurs circonstances.
Pour la partie caritative, je pense que au-delà du fait que c'est toujours sympathique de se revoir, de se retrouver quand on est principalement seul et tout, après je pense aussi qu'il y a une question d'image et de rente, parce qu'à partir du moment où, surtout quand on parle des gros événements, on retrouve à peu près les mêmes personnes. Il y a un peu le Saint-Empire du GP et le Grand Ordre du The Event, c'est-à-dire qu'on a vraiment les gros créateurs qui sont là. Et je pense qu'il y a aussi un truc, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils gagnent beaucoup d'argent, enfin, on sait qu'ils gagnent beaucoup d'argent, il y a une défiance des gens, il y a aussi ce désir de montrer qu'on peut rendre.
Oui.
Aussi... que, je pense qu'il y a ça aussi, que c'est pour les événements caritatifs en tout cas.
Noël ? Je crois que tu voulais réagir sur
d'accord.
Ce que vient d'accord. Oui, c'est qu'il y a aussi peut-être une forme de responsabilité ou de culpabilité après.
Je pense que ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun des créateurs. Je pense que, en tout cas, le fait de le lancer, il y en a qui y vont parce que peut-être qu'ils se sentent un peu coupables. Il y en a qui y vont parce que par vraie véritable charité. Il y en a qui y vont parce que ils se disent si lui il y va et que moi j'y vais pas, j'ai l'air d'un con. Donc c'est heureusement
ça. Il y en a aussi qui y vont parce que c'est cool.
Exactement.
Il faut aussi prendre la partie positive et
bien sûr.
Tous ces projets sont à chaque fois extrêmement amusants à vivre et je pense qu'il y a aussi un côté addictif. C'est-à-dire que je pense pour l'avoir vu qu'en fait, une fois que t'en sors, bah t'as hâte d'être au prochain et je pense qu'il y a ce côté un peu c'est un peu le Z-Event, c'est la réunion annuelle des créateurs de contenu.
Exactement.
Et en fait ils ont hâte de te revoir.
Ils sont en séminaire d'entreprise.
C'est à peu près ça, oui.
C'est leur weekend team
meeting. C'est le colloque.
Et oui, et puis, comme tu le dis, je pense que, comme vous l'avez dit, je pense qu'il y a aussi ce besoin, moment ou peut-être presque cette découverte de faire des choses en public, aussi avec des gens dans la vraie vie, eux qui se sont construits souvent dans leur chambre, dans leur studio. Ça ouvre presque sur une autre typologie d'événements et de projets qu'ils peuvent mener. Je propose qu'on écoute un morceau avant de continuer à faire la rétrospective de l'année 2025. Un morceau d'une artiste qu'on aime beaucoup, Thames, qui vient de sortir un EP de grande qualité. On va s'écouter le morceau Big Daddy qui est en playlist sur France Inter. Thames avec le morceau Big Daddy.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Et je suis aujourd'hui avec Nawel Stouli, avec Arthur Perticoz et avec Guiran Fall pour parler de l'année 2025, de ce qui s'est passé sur Internet notamment. Et je voulais qu'on parle peut-être un peu de YouTube parce que on a eu aussi, alors ça fait quelques années qu'on a des énormes productions sur YouTube, avec un moment aussi, il y a eu une période où justement beaucoup de créateurs en sont un peu revenus et ont voulu revenir à des choses un peu plus peut-être rudimentaires, en tout cas plus simples. Et on a eu cette année, pour le coup, des énormes productions avec, je pense évidemment à la vidéo de Squeezie, la fameuse vidéo du train qui est, je crois, la vidéo la plus chère du YouTube français, mais on peut aussi parler de Michou qu'on avait reçu dans cette émission et de la super production qui était le Terminal en 4 épisodes. Est-ce que ça, c'est devenu une norme, ces énormes productions sur YouTube, Nawel?
Oui, c'est devenu une norme, ils en ont, parce qu'ils en ont déjà les moyens, parce que ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est parce que aussi je pense que c'est du kiff et que il y a une envie d'innover, il y a une envie de faire plaisir à leur public, et je pense aussi que c'est une question de survie. Parce qu'il faut, comme ils ont été copiés par toute la nouvelle génération qui arrive, pour rester, il faut qu'ils gardent leur place de leader et proposer du contenu qui soit innovant. Je pense, voilà, il y a les deux enjeux, l'enjeu personnel de se faire plaisir et l'enjeu de pouvoir rester sur cette plateforme. Mais Stop the Train, ils ont explosé tous les records. C'est un tournage qui n'a pas eu lieu en France, tout comme Terminal d'ailleurs, avec le décor incroyable de cet aéroport abandonné.
C'est en Espagne, je crois, si tu ne dis pas si c'est le Terminal en tout cas.
Je crois même que moi j'ai préféré Terminal que. Parce que
je suis d'accord avec toi.
Ouais,
je pensais
avec
pas.
Tout le respect que je dois aux équipes de Squeezie qui ont fait un travail incroyable, mais Terminal m'a.
Je ne pensais pas que ça m'intéresserait comme ça. Terminal. Je trouvais ça que c'était très bien fait, effectivement.
Et ça tient en 4 épisodes. Hein, ouais. C'est quand même 4 épisodes avec des duos qui sont longs
à chaque fois.
Au fur et à mesure.
Tout à fait.
Et puis, je pense aussi la révélation de Cocotte dans ce format-là qui était à mourir de rire.
Et puis, Bailan et Nico qui n'ont pas été révélés par le Terminal, mais en tout cas, qui c'était. Un des multiples contenus dans lesquels on les voyait, dans lesquels ils ont brillé. Et c'est aussi des gens qui, un peu comme Anime sur un jeu différent, mais qui ont ramené un autre ton aussi sur la plateforme YouTube, je trouve, Bailan et Nico, vraiment. Ouais. Est-ce que vous, ces productions-là, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est pas peut-être. Si ça devient une norme, est-ce que c'est pas trop excluant aussi pour les plus petits créateurs?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une course. Là, pour le coup, je ressens une forme de course et de compétition interne. Alors, tout le monde est relativement ami, hein, des gens qu'on cite. Hein, donc je pense qu'elle est, je ne sais pas si elle est plus saine parce qu'elle est amicale, mais en tout cas, je pense qu'elle est relativement amicale. D'ailleurs, ils participent tous les uns au truc des autres, donc ça prouve bien ça. En fait, j'ai du mal à parler de ça sans parler de Kaizen, moi. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un avant-après.
Kaizen, qui était le documentaire d'Inoxtag qui gravit l'Everest.
Et il a mis en fait un tel niveau de jeu qu'en fait, je pense que quand t'es un créateur un peu star, c'est-à-dire que t'es dans ce top 10, 20 français, tu dis bon, il a fait ça en 2024, mais en fait, comment je choque un peu le public en 2025? Et bah, au bout d'un moment, soit t'arrives à avoir une écriture un peu nouvelle, mais c'est dur, soit tu dis bah, je vais faire un truc qui m'aura jamais coûté aussi cher. Et en fait, c'est presque, j'ai l'impression, le budget qui entraîne le déploiement de moyens que réellement la nécessité de faire quelque chose qui coûte tant.
Bah, c'est intéressant ce que tu dis, parce que sur la vidéo Stop the Train, c'était presque un argument de vente, parce que Squeezie en avait parlé même un mois ou deux mois, je ne vais pas dire de bêtises, avant la sortie, alors, je ne sais pas s'il l'a marketé comme ça, en tout cas, il l'a présenté comme ça, comme c'est la vidéo la plus chère, etc. Donc c'est vrai que ça faisait même... On savait avant même qu'on la vidéo sorte, qu'on allait regarder un contenu YouTube très très cher. Donc,
ce que tu dis est génial, c'est on n'a jamais autant parlé d'argent. Ouais. J'ai jamais autant entendu de créateurs de contenu parler d'argent. C'est parce qu'en fait, et on rebondit sur ce que tu disais aussi, ce sont maintenant vraiment des entrepreneurs. Et je pense qu'avec l'âge, ils commencent à assumer cette nouvelle facette. Parce que probablement qu'être juste star d'Internet, c'est un peu chiant au bout d'un moment, parce que bon, bah, tu l'es, et c'est peut-être un peu réducteur. Et en fait, bah, la manière de montrer qu'on est entrepreneur, bah, il n'y en a pas 36 000. Hein. Soit tu révèles ta fiche d'imposition, je pense que pour l'instant, personne n'est parti sur cette voie-là. Soit tu dis, bah, voilà, ça me coûte tant, potentiellement, je gagne tant. Et c'est vrai que c'est devenu un élément presque fondamental. Terminal, même Michou a évoqué combien ça lui a coûté, Inoxtag a évoqué combien coûte Kaizen.
Ah bah, bien sûr, puisque ça fait partie aussi du roll-out, du plan marketing pour vendre aussi le programme. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, et d'ailleurs on le voit dans le documentaire que Squeezie a produit, Merci Internet, dans lequel il dit Merci Internet, mais une grande partie du documentaire, c'est assez rigolo, parce qu'il explique que à peu près tout au long de sa carrière, il a essayé d'être sur autre chose que sur YouTube et sur Internet. Et je pense que la problématique, elle est toujours là, c'est-à-dire que comment on fait? En plus de ça, au départ, tous ces créateurs ont commencé seuls, de manière hyper flexible. Ils pouvaient changer quand ils voulaient. Là, maintenant, c'est des grosses boîtes. Il y a des employés, il y a des gens. Je pense que l'enjeu, il est de aussi fabriquer des contenus qui soient d'abord diffusés sur YouTube et pourquoi pas ensuite vendus à des plateformes. Je pense qu'on va arriver à un moment aussi où des youtubeurs vont vendre leur format à d'autres youtubeurs. On l'a par exemple avec Hot Ones, qui est un format américain qui a été racheté par Canal+, mais c'est un format YouTube au départ. Donc je pense qu'il y a ça. Et puis après, Je pense.
Il aurait fallu que Squeezie, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui parfois, l'imposteur par exemple, c'est quelque chose qui aujourd'hui est plus ou moins repris dans énormément de contenus.
Mais pour le coup, c'est pas de lui, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est la première qui en France l'a fait, à mon sens, c'est Océane Hamsler, avec aussi aidé par son compagnon Le Motif. Qui c'est eux qui ont amené en français ces formats assez produits, donc des vidéos à 4 chiffres à l'époque, ça paraissait beaucoup il y a 4 ans, et des vidéos un peu plus chères avec un panel et très tiré de la télé et de format anglais, parce qu'il y a des anglais, les Sidemen, le Beta Squad notamment, qui faisaient ça aussi. Donc c'est elle qui l'a un petit peu ramené en France. Squeezie là, en a fait ce qui est maintenant la base du divertissement quasiment sur YouTube, le format que tout le monde veut essayer d'avoir.
D'ailleurs, dans sa première vidéo, Squeezie disait que c'était pas son concept. Il le disait dans le premier épisode de l'imposteur, effectivement.
Donc en fait, après je pense qu'il y a un effet de pendule qui se voit en même temps. Plus on dépense d'un côté, plus il y a une envie d'avoir des trucs pas du tout produits et beaucoup plus crus, en tout cas beaucoup plus naturels de l'autre. Et on a vu aussi apparaître, notamment ces deux dernières années, aussi cette année, des créateurs qui au contraire refusent ça. On l'a aussi aux États-Unis, on a certains créateurs qui veulent aller contre la Mr. Beastification, donc ce côté de la super production, parce qu'en fait, il y a un côté surenchère qui au bout d'un moment... tu sais pas où ça s'arrête, quoi.
Mr. Beast, qui est le premier youtubeur au monde. Exactement. Voilà.
Non, mais ça me fait penser à McFly et Carlito, qui fait le mouvement complètement inverse et qui aujourd'hui teste des chips, des glaces et des apéricubes, et ça cartonne seul dans leur studio. Donc il y a une contradiction de mouvement.
Oui, tout à fait. Exactement. On continue à parler d'Internet tout de suite dans La Régulière. C'est vrai que c'est fou parce que tu parles de McFly et Carlito. J'ai eu, comme tout le monde, j'ai eu mon récap YouTube cette année. La 5e chaîne YouTube que j'ai le plus regardée, c'est celle de McFly et Carlito. J'adore regarder
aussi,
deux quadragénaires bouffer des chips.
C'est mon kiff.
C'est mon kiff. Voilà, je vous le dis.
Deux millionnaires qui reconnaissent le goût de l'eau gazeuse. Oui. Je clique.
Je clique là-dessus. Est-ce que j'ai honte? Absolument pas.
Je suis quelqu'un de simple.
Je suis quelqu'un de simple. C'est
j'assume.
Tout. Alors, tu parlais, Guérin, notamment de créateurs de contenu étrangers, notamment américains. C'est aussi une année où on a vu des explosions aux États-Unis, je pense à des streamers, en fait. On voit l'importance aussi, la place que prend Twitch. C'est pas nouveau, mais j'ai l'impression que vraiment, cette année, il s'est passé, enfin, ça s'est encore accentué. Je pense à des gens comme iShowSpeed, évidemment, comme Kai Cenat, comme Drewski. Est-ce que ça aussi, tu le voyais venir? Est-ce que vous le voyez venir, Guérin, Arthur et Nawel?
Alors, pour Kai Cenat, il se trouve qu'il y a 3 ans, j'étais aux États-Unis et j'étais pas loin d'un endroit à New York qui s'appelle Union Square, et il y a eu tout à coup une émeute. Et je ne sais pas combien de voitures de police qui se sont déployées devant moi. Il se trouve que c'était le jour où Kai Cenat, un jeune streamer new-yorkais, avait décidé, comme ça, de donner rendez-vous à des gens de sa communauté à cet endroit, Union Square, pour faire des dons de je ne sais pas exactement quoi, des consoles, des jeux vidéo. Je ne sais même pas exactement ce qu'il donnait, mais il donnait des trucs. Et ça a créé un blocage de New York pendant 6 heures. Et c'est un peu comme ça, moi, que j'ai vraiment
compris
ce que c'était le phénomène Kai Cenat, dont j'entendais le nom un petit peu. Et donc, ça fait partie... Donc, on a quand même, aujourd'hui, là, aux États-Unis, deux méga-stars du stream, que sont Kai Cenat et iShowSpeed, qui se déplacent partout, notamment pour iShowSpeed, partout dans le monde, suivis de caméras qui streament en live toute la journée.
iShowSpeed était venu en France notamment cette année.
Absolument.
Beaucoup fait parler.
Il a fait un tour du monde. Je crois qu'il l'a fait 2 fois. Et en même temps, il produit sur YouTube parce que son but, c'est de iShowSpeed. Il est très sportif et il veut représenter les États-Unis en sprint aux Jeux Olympiques 2028. Ça n'arrivera jamais. Mais il fait beaucoup de contenu autour du sport et maintenant, il essaye de voir s'il pourrait avoir un niveau professionnel dans tous les sports. Et c'est une méga star, Kai Cenat, c'est comme ça, et Drewski, lui, c'est le petit indépendant qui fabrique un peu un empire de l'humour et de formats humoristiques adaptés de la télé-réalité des noirs américaines comme Love and Hip Hop et tout, sauf qu'il, lui, il les parodie, et il est en train de créer ça, et ces trois figures ont aujourd'hui en plus fait un crossover total puisque avec Hollywood et les médias traditionnels, puisque on les voit maintenant, ils sont quasiment co-hosts de quasiment toutes les grosses cérémonies américaines.
Mmh. Arthur, est-ce que parfois on parle notamment de l'Internet français, on dit qu'on a un Internet français très fort, très créatif. Est-ce que, notamment sur Twitch, est-ce qu'on est au niveau des Américains? Est-ce qu'on est meilleur? Est-ce qu'on, quand on parle d'anime qui fait des scores plus importants qu'eux, évidemment, ce que je dis, c'est pas aussi simple que ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, la France, c'est un pays extrêmement fort quand on parle d'Internet?
Alors, je vais rassurer les adeptes du Made in France. Oui, la France est une place forte d'Internet. Notamment quand on prend les chiffres en nombre de spectateurs rapportés au nombre de locuteurs, tout simplement. Et en fait, le ratio de nombre de personnes qui regardent Anime, Kameto, Squeezie, par rapport au nombre de francophones, mais il est largement supérieur au nombre de gens qui regardent Kai Cenat. Par rapport au nombre de locuteurs anglais, anglo-saxons et même simplement les États-Unis. Donc en réalité, la force, elle est énorme rapportée
au pays,
à la taille du pays. Y a des choses sur lesquelles on est unique au monde, l'e-sport. Bon, c'est la Corée, mais la Corée n'a pas le côté influenceur qu'il y a en France, donc ça c'est unique au monde. Les événements physiques, ça c'est unique au monde. C'est-à-dire que les Américains ne comprennent pas comment c'est possible de produire ça, parce que le GP Explorer, c'est quand même un ovni mondial. Par contre, il y a un point sur lequel on est moins bon, c'est qu'on ne sait pas s'exporter à l'international. Et ça, voilà, c'est le problème. Alors, on est très fort dans notre place à nous, mais aujourd'hui, il n'y a pas de créateur ou de créatrice de contenu française, français, qui a réellement réussi à devenir un objet international majeur, à l'inverse des Kai Cenat, Tai Showspeed...
Quand tu dis barrière de la langue.
Oui, barrière de la langue.
Est-ce que est-ce que l'IA ne peut pas changer ça? En fait, demain, est-ce qu'on peut pas, finalement, on peut doubler quelqu'un avec sa voix dans n'importe quelle langue? Est-ce que, je sais pas, c'est pas là où ça peut éventuellement changer?
À partir du moment où il y aura vraiment une IA qui le fera parfaitement et on aura l'impression que c'est quelqu'un qui nous parle, peut-être, et que plus personne ne saura si la personne est française, peut-être.
Mais ça va arriver, ça.
Peut-être, mais je sais pas. Moi, c'est surtout, par contre, quand on dit à l'international, globalement, on parle du monde anglophone.
Oui.
Or, il pourrait aussi s'exporter à l'international en insistant sur tout le monde francophone, l'Afrique francophone notamment, qui n'est jamais prise en compte par les créateurs français. Alors, il y a une raison aussi assez forte, puisqu'il n'y a que le Sénégal qui est un territoire monétisé. On peut monétiser des vidéos. Si on a on peut avoir 50 millions de vues qui viennent de Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal.
On gagne pas d'argent.
On ne gagne pas un centime. Donc d'ailleurs, des Sénégalais ou des créateurs francophones, africains francophones, domicilient leur chaîne en France pour pouvoir bénéficier d'une monétisation s'ils font des vues. Donc ça, c'est une première chose. Après, pour essayer de s'exporter, pour le coup, je suis d'accord avec Nawel, c'est-à-dire que c'est compliqué quand tu parles mal anglais, quoi.
Alors, pour l'instant, l'outil de YouTube ne fait pas le taf sur la traduction avec l'IA. Maintenant, ça va très vite, c'est de mieux en mieux. Et je pense que globalement, c'est ce qui est en train de se passer, c'est une hyper concurrence de production de contenu. C'est-à-dire qu'il y a plus de créateurs parce que les moyens techniques sont moins chers pour produire. L'IA va en plus accélérer ça et ça va être compliqué. Et je pense qu'on va arriver comme sur le marché de la musique où ça va être le top qui va vraiment fonctionner, vraiment ce marché qu'on appelle en sablier avec le top créateur qui cartonne, qui va monopoliser l'argent qui circule dans ce secteur et les créateurs un peu plus petits mais de niche qui vont survivre et tout le milieu moyenne gamme va se retrouver étranglé.
Bon, je propose qu'on écoute, tu parlais de bien parler anglais, je pense qu'on écoute un morceau de Childish Gambino qui s'appelle sur l'album Because the Internet. Le morceau s'appelle 3005. Est-ce que tu parles bien anglais? Tu peux le dire en anglais, le 3005?
3005.
Oh, c'est super. Because the Internet, Childish Gambino, 3005. Tu dis si bien.
Thank you.
No matter what you say or what you do, when I'm alone, I'd rather be with you.
Okay, hold up, wait a minute, all good, just a week ago, crew at my house, and we party every weekend, so, on the radio, that's my favorite song, make me bounce around like I don't know, like I won't be here long, now the thrill is gone, got no patience, cause I'm not a doctor, go, why is you lying? Girl, why you Mufasa? Yeah, mi casa su casa. Got it stripped it like Gaza. Got so high off volcanoes. Now the flow is so lava. Yeah, we spit that saliva. iPhone got message from Viber. Either the head is so hydra or we let bygones be bygones. My God, you pay for your friends? I'll take that as a compliment. Got a house full of homies. Why I feel so the opposite. Incompetent ain't the half of it. Saturdays with young lavish. It's sad that it's as bad as it means they took from the cabinet. Sorry, I'm just scared of the future. Till 2005, I got your back, we can do this, hold up.
No matter what you say or what you do, when
I'm alone, I'd rather be with you. Got these other sermons, I'll be right by your side till 2005. Hola,
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 hola.
I used to care what people thought, but now I care more, and nobody out here's got it figured out. So therefore, I've lost all hope of a happy ending, depending on whether or not it's worth it. So insecure, no one's perfect, we spend it with no shame, we blow that. Like Coltrane, we in here. Like Rogaine, or leave it, like Cobain. And when I'm long gone, whole crew singing swan song, cause we all just ticking time bombs. Got a Lambo like LeBron's mom, and no matter where all of my friends go, yeah. Emily, fam, and Lorenzo, yeah. All of them people my kinfolk, at least I think so. Can't tell, cause when them checks clear, they're not here, cause they don't care. It's kinda sad, but I'm laughing. Whatever happens, assassins are staffed in the back of my cabin. Labrador yapping, I'm glad that it happened. I mean it, between us, I think there's something special. And if I lose my mental, just hold my hand, even if you don't understand. Hold up.
No matter what you say or what you do, when I'm alone, I'd rather be with you. Got these only sermons, I'll be right by your side till 2005. Hold up.
Hold up.
Hold up.
Hold up.
C'était Childish Gambino avec le morceau 3005, oui pardon, je le dis à la française.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Et je voulais qu'on parle peut-être aussi de créateurs que vous avez appréciés cette année. Nawal, on peut peut-être commencer avec toi. Je crois que tu voulais notamment parler de OK Charlotte.
Oui, de Charlotte Vautier.
Exactement.
Qui est à la base journaliste. Elle a bossé pour Clic, pour Le Parisien. Et elle fait partie de ces transfuges des médias traditionnels qui se lancent sur YouTube, comme Charles Villa ou Camille Reporter qui l'ont fait avant elle. Et elle superforme. Performe,
tout à fait, ouais. Parce sur les réseaux que, et sur YouTube,
ouais,
ça marche
et
très
sur
bien.
YouTube, moi je vous parle d'une vidéo qui avait plus de 2,9 millions sur YouTube, et c'est une vidéo qui m'a marquée parce que c'est la face cachée de l'aéroport Charles de Gaulle, où elle a passé deux nuits en compagnie des SDF qui vivent dans l'aéroport Charles de Gaulle. Et en fait, il y a une partie du terminal qui est fermée et les SDF dorment là. Il y a des gens qui travaillent aussi la journée et qui sont SDF la nuit. Il y a une jeune femme, Jamila, qui a 50 ans, qui s'est fait virer de son appartement et qui survit dans des conditions un peu compliquées. Elle a pourtant 4 enfants hein, qui sont au courant de sa situation. Voilà, c'est très émouvant. Et la façon dont elle a d'incarner les choses, d'être en face cam, elle est seule, elle n'a pas de journaliste ou de caméraman avec elle. Et elle arrive à aller à des endroits dont personne ne parle, auxquels on ne pense pas et qui sont pourtant essentiels avec un message fort de comment notre société pourrait arriver à ne plus avoir de SDF un jour.
J'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi. C'est une excellente journaliste déjà à la base et je suis content qu'elle arrive comme ça sur YouTube. Arthur, tu voulais parler de Amy ?
Oui, Amy. A-M-Y, ouais. Et plus un plante, comme une plante. Et en fait, c'est une créatrice de contenu qui est assez unique puisqu'elle décide de lier l'informatique avec YouTube. Et donc, concrètement, ses vidéos, c'est qu'elle va développer des outils informatiques avec à chaque fois un angle. Elle va essayer de créer un outil qui peut battre le meilleur outil possible pour gagner sur puissance 4 ou des outils pour essayer de reconnaître des gens dans le métro ou dans le bus. Et en fait, elle va montrer tout le parcours de création, donc vraiment du coding. Donc on est sur quelque chose qui pourrait être âpre, un peu dur.
Qui n'est pas le truc le plus sexy à la base.
Pas du tout. Ouais. Et elle rend ça super sympa, super ludique, et je trouve qu'elle apporte en fait quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire qu'elle va montrer une technicité version cool, version pop, version vivant, et c'est quelque chose de rare, et en plus c'est amusant parce que on pourrait dire bon bah si je vous dis YouTube et coding, vous allez me dire bon bah c'est un mec de start-up et machin, bah pas du tout, c'est une créatrice de YouTube, elle est aussi développeuse et elle montre sa passion et c'est quand même génial.
Ouais, c'est enfin je corrobore. J'abonde dans ton sens, Amy Plant, elle est super forte, et surtout ce qu'elle a réussi à faire, c'est justement garder une touche artistique dans ce qu'elle fait. C'est-à-dire que c'est pas seulement des vidéos de présentation d'Oct, c'est elle parle à la première personne, c'est des vlogs à la première personne, c'est presque une démarche d'art contemporain dans la manière dont elle se présente, dont elle vit sa vie. Elle est fan de rap, et elle avait essayé de fabriquer une intelligence artificielle pour reproduire une voix à la Gazo, pour essayer de... Et donc elle va vraiment sur ses passions, il y a un côté approche presque comme une artiste comme Sophie Calle qui fait de l'autofiction et qui utilise sa vie pour en faire de la matière artistique. Et c'est, j'aime beaucoup Amy Plant pour ça aussi.
Ouais. Ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment un côté performance.
Ouais.
Et elle se lance des petits défis. Et ça, c'est toujours des vidéos qu'on aime bien regarder. Elle se lance un défi, ça dure 30 minutes, on apprend plein de trucs. Et à la fin, on a juste envie qu'il y ait la prochaine qui sorte. Et c'est vraiment, vraiment chouette d'apprendre comme ça de manière ludique.
Guérin, rapidement, je crois que tu voulais parler de Ego.
Oui, il y a. On parlait des créateurs qui n'ont absolument pas à rougir dans le YouTube international. Il y a deux créateurs français qui sont excellents. Ego, qui a fait. Moi, je l'ai découvert.
Je crois que Nawel connaît bien.
Oui, qui représente.
Je l'accompagne un petit peu.
Qui est accompagné notamment par Nawel. Qui il fait du vidéo-récit documentaire. Il fait de l'information et il raconte des histoires comme très peu de gens le font. Et je pense que Ego, allez regarder sa vidéo sur l'homme qui a battu la machine, c'est sur l'histoire de Kasparov contre un ordinateur. Et moi, la vidéo qui me l'a fait connaître vraiment, c'est l'histoire de l'usine de trombone. Et à partir d'usine de trombone, d'une histoire d'usine de trombone, il parle d'IA. De qu'est-ce que ça veut dire l'IA pour les êtres humains, et c'est fascinant. Et un autre qui pour moi fait partie aussi des très grands créateurs de cette plateforme au niveau mondial, c'est MiCode, qui fait vraiment des enquêtes. Et voilà, donc ça c'est Ego et MiCode, deux créateurs qui font du vidéo-récit, qui n'est pas juste lire en changeant un peu l'ordre des phrases d'une page Wikipédia.
Super ce que tu me proposes, c'est l'heure de la question qui tue. Je vais vous demander d'être rapide, je suis désolé. Pour vous, le ou la goat du YouTube français? C'est la question qui tue. Nawel, tu as quelqu'un?
Moi, je vais quand même dire Léna Situation.
Léna Situation. Guérin a l'air d'accord.
Comme elle a dit Léna Situation, je vais pouvoir dire mon copain, Yvick.
Et comme tout le monde donne ses amis, moi je vais dire Kameto, parce que je pense qu'avec la Carmen Corp, il a la plus belle histoire de l'internet français.
Alors, mais est-ce qu'on peut développer là-dessus? Parce que Léna...
T'as changé de l'intitulé. On a dit YouTube, t'as pris Internet, mais bien joué, bien joué.
Non mais c'est intéressant, parce qu'on n'a pas parlé de Kameto, et je pense que Léna et Yvick, pour le coup, sont aussi peut-être aujourd'hui plus connus du grand public que Kameto. Mais Kameto, pourquoi Kameto? Parce que c'est effectivement quelqu'un de très central dans l'internet français, même si évidemment, t'es pas très objectif. Mais pour le coup, personne va te contredire sur son...
Je suis pas du tout objectif, mais Kameto, c'est le gamer. Donc c'est un joueur de jeux vidéo, c'est sa passion, c'est ce qu'il aime faire depuis qu'il est tout petit. Et il a décidé d'en faire son métier avant que ce soit un métier, d'être joueur de jeux vidéo sur Internet. Et en fait, il avait un rêve, c'est d'être champion du monde de son jeu préféré, qui s'appelle League of Legends. Et en fait, il n'était pas assez fort. Il détesterait que je le dise comme ça. Il s'est dit, puisque moi, je ne suis pas assez fort, je vais créer l'équipe qui va être capable de gagner. Et ça s'appelle la Carmin Corp. Pour l'instant, il est champion d'Europe. Et jusqu'au prochain chapitre.
Et je t'en supplie, Arthur, c'est la première fois qu'on se rencontre. Je te propose, j'ai envie d'écrire le film de l'histoire de Kameto. Parce que tu parles de la Carmin Corp, mais c'est formidable. C'est la vie d'Internet où il était aussi très fort aux jeux vidéo, mais il était aussi à la tête d'une radio libre qui parlait de sexe, qui s'appelait Radio Sexe pendant un moment. Il y a des histoires de trahison, trahi par son ami. C'est formidable. Laisse-moi écrire ce film.
Je vous laisse en parler en antenne. Je vous laisse en parler en antenne. Pardon,
il
n'y
a pas un petit doc Amazon qui arrive, non?
Il n'y a rien de prévu, donc j'attends un auteur.
Vous très belle recherche d'exclus, j'aime beaucoup.
Merci beaucoup. Merci Nawel, merci Guérin, merci Arthur. C'était un plaisir de faire cette émission avec vous. Et merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission, qui a été préparée par Alexia Lacour et Redouane Tella, réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Selim Guéribi et David Diboué Black. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, c'est le 31 décembre, et nous aurons un grand freestyle dans l'émission, comme à l'ancienne, un freestyle radio. Ça me fait plaisir. On se retrouve demain, même heure, à la régulière.